France Inter. .fr. France Inter. Pierre Veil. Le 6-9 de l'été.
Jean Jouzel, bonjour.
Bonjour Pierre Veil.
Vous êtes climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Des pluies diluviennes accompagnées de coulées de boue font plus de 300 morts en Sierra Leone. Des inondations meurtrières en Inde, au Népal, au Bangladesh. Une partie du Groenland, où un record de chaleur a été enregistré en juillet, est en proie aux flammes. Ici en France ou au Portugal, des incendies, des milliers d'hectares détruits, des vagues de chaleur en Europe, notamment en France ces derniers jours, une sécheresse chez nous avec des restrictions d'eau. Est-ce que tous ces événements, Jean Jouzel, démontrent que progressivement le réchauffement climatique fait d'immenses dégâts ou est-ce qu'il s'agit des aléas de la nature ?
Non, je me permets d'abord de préciser que j'étais vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015. Alors pour répondre à votre question, Pierre Veil, merci. Oui, ce qui se passe, semble-t-il quand même, c'est que disons, longtemps, moi-même, on a vécu en France un réchauffement d'un peu plus de 1 degré, 1 degré et demi sur ma génération. J'ai longtemps dit qu'en France, le réchauffement était perceptible, mais pas vraiment dangereux, même si, bien sûr, on a eu ces 15 000 morts supplémentaires en 2003. Mais je pense qu'on peut mieux faire par rapport aux canicules. Mais on voit maintenant que, partout dans le monde, il y a effectivement des conséquences du réchauffement climatique avec des morts. Vous avez parlé du Sierra Leone, de l'Inde, des difficultés économiques qui sont liées à la sécheresse, des difficultés d'insécurité alimentaire dans certaines régions. Donc effectivement, le réchauffement climatique, peut-être parce qu'on le regarde avec plus d'attention qu'il y a quelques années, a des conséquences pratiquement sur l'ensemble de la planète. Et c'est ça notre message, il est vraiment très urgent d'agir.
Jean-Jouzel, mais alors ce qu'on voit actuellement, c'est rien par rapport à ce qui peut se passer dans 50, 70 ans, si on ne lutte pas plus efficacement contre ce réchauffement climatique ?
Oui, franchement, c'est rien. Justement, qu'est-ce qu'on essaye de dire clairement ? C'est qu'un degré, ça paraît n'être rien. Un degré, ce sont en moyenne globale, ce sont déjà des conséquences palpables, des conséquences, disons, des conséquences assez désastreuses, des vies humaines qui sont perdues. Alors, même un degré supplémentaire, un degré et demi supplémentaire, les deux degrés de l'accord de Paris, c'est un climat différent d'aujourd'hui. L'espoir, c'est que si on arrive, on pourra s'y adapter pour l'essentiel, pas pour tout. Mais si on va vers 3, 4, 5 degrés, effectivement, et cela, sont les jeunes d'aujourd'hui qui devraient y faire face, ce serait extrêmement difficile. C'est un monde complètement différent auquel il sera extrêmement difficile de s'adapter.
Décrivez-nous ce monde à ce moment-là qui serait un désastre.
Oui, un désastre, même en France.
Qu'est-ce qu'on vivrait alors ?
Alors, prenons la France. Une récente étude avec des collègues de Météo France, ils ont regardé les températures journalières en cas de canicule dans la deuxième partie du 21e siècle, dans le cas où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Disons qu'on ne va pas en France au-delà de températures maximales de 45 degrés, même ponctuellement. Cette étude montre qu'à la fin du siècle, dans cette hypothèse, nous pourrions aller vers des températures, alors certaines journées de canicule, pas bien sûr, très ponctuellement, de supérieures à 50 degrés, voire jusqu'à 55 degrés. Je vous laisse imaginer les difficultés avec, en outre, ce qui est lié à l'îlot de chaleur urbain dans nos mégapoles. Donc on voit bien les difficultés auxquelles nous aurions à faire face, y compris dans notre pays, sur un réchauffement climatique qui ne serait pas maîtrisé. Autrement, bien sûr, ce sont des élévations du niveau de la mer, dont au moins un mètre à la fin du siècle, mais qui se poursuivraient. Des températures qui pourraient également aller vers 6-8 degrés à la fin du siècle prochain, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Des conséquences, des zones de sécheresse, des réfugiés climatiques, des zones seraient extrêmement affectées. Et ce qui marque aussi comme étude assez récente, c'est que, en gros, il y a des régions, la Corne de l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie, le Nord de l'Afrique, où on ne pourrait simplement plus aller à l'extérieur, on ne pourrait plus vivre, en gros, sous ce climat, on ne pourrait plus vivre normalement.
Une étude révèle qu'en 2100, d'ailleurs, 40% de l'humanité sera africaine. Là aussi, il y a une urgence, selon vous, à défendre ce continent contre le réchauffement climatique si on veut éviter des catastrophes.
Oui, parce que peut-être on ne le perçoit pas, mais 4 à 5 degrés en moyenne globale, c'est aussi 4 à 5 degrés sur l'Afrique. Et c'est justement ces continents qui souffriraient, ils sont déjà très vulnérables, qui souffriraient le plus du réchauffement climatique. Il faut, je pense qu'on comprend bien que certaines parties de l'Afrique ont eu du mal à se développer parce que le climat n'aurait déjà pas favorable au développement. Quand on parle des régions sahéliennes, où, voilà, donc on comprend bien cela, où il y a d'autres régions où il fait tout simplement trop chaud déjà, et l'Afrique sera touchée. Alors ce qu'il faudrait pour l'Afrique, effectivement, on parle de 2 milliards d'habitants en 2050, peut-être plus, il faudrait effectivement que le développement de l'Afrique se construise autour des énergies renouvelables, vraiment que ce soit un laboratoire pour le... ce que nous appelons de nos voeux, une société sobre en carbone, un nouveau mode de développement. Parce que si on n'y arrive pas, si l'Afrique se développe de la façon dont nous nous sommes développés au cours des 30-40 dernières années, nous n'arriverons pas à gagner la lutte, disons cette lutte contre le réchauffement climatique.
Jean Jouzel, vous parlez des énergies renouvelables. Revenons en France. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici 2050, 50% de l'énergie pourrait venir des énergies renouvelables? Pour l'instant, on en est vraiment loin.
On en est vraiment loin. On a donc, je rappelle simplement les objectifs de la loi sur la transition énergétique en termes d'énergie renouvelable. 23% à horizon 2020, 32% à horizon 2030, et puis effectivement aller vers probablement 50% d'énergie renouvelable en 2050. Tout ça, c'est difficile. Le premier objectif va être difficile. Les 23% d'énergie renouvelable en France à horizon 2020, je ne crois pas qu'on puisse les atteindre. Il faudra vraiment accélérer, oui.
Vous dites c'est difficile. Pourquoi c'est difficile?
Eh bien, parce que, on voit bien, il aurait fallu, pour atteindre cet objectif, que l'éolien se développe sans, disons, je dirais, sans frein ou sans trop de freins. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de freins au développement de l'éolien. On a parlé, par exemple, récemment disons de la fin du projet Côte d'Opale. Alors je ne veux pas porter de jugement là sur ce dossier que je ne connais pas, mais ce qu'on observe, c'est que en Europe, il y a 3000 éoliennes en mer. En France, il n'y en a aucune encore. Mmh. Hein, disons, en gros, ce qu'on observe également, c'est qu'un projet, généralement, de ce type, en France, met 8 à 10 ans. En Allemagne, il met 4 ans à se mettre en place. Donc, on voit bien les difficultés.
Parce qu'il y a des recours permanents, oui.
Des opposants à tout projet. Alors, bien sûr, ces projets sont à juger au cas par cas. Je ne le ferai pas ici, parce qu'il faut connaître les dossiers. Mais c'est sûr que si, on ne trouve pas un moyen pour accélérer la mise en place des énergies renouvelables globalement, sans faire de choix, on n'arrivera pas aux 23% en 2020 et on aura probablement du mal à atteindre les 32% en 2030.
On reviendra un peu plus tard sur ce dossier du réchauffement climatique. On évoquait dans le journal la contestation du projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Que pensez-vous de cette situation qui est extrêmement tendue? Parce que ces déchets nucléaires, de toute façon, si on veut fermer des centrales nucléaires, il faudra bien les stocker quelque part.
Oui, alors je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, mais bon, je suis quand même fier de... je dirais que je suis fier de commencer dans 2 mois ma 50e année au commissariat de l'énergie atomique. Alors ça s'appelait le commissariat de l'énergie atomique quand j'ai commencé ma thèse en 1968. Alors, en octobre 68, j'y suis toujours comme directeur de recherche. Maintenant, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Ça ne fait pas de moi, aux énergies alternatives, ça ne fait pas de moi un spécialiste nucléaire, mais évidemment, ce lien entre climat et énergie et le fait que j'ai passé toute ma carrière au CEA, me rend sensible et en tout cas, j'essaye de regarder. Pour ce qui concerne les déchets nucléaires, quelle que soit la position qu'on prenne par rapport aux centrales actuelles, soit les prolonger, ne pas les prolonger, tenir l'objectif de 50% du nucléaire dans la loi, je crois qu'il faut absolument prendre en compte ces déchets, quelle que soit la position. Et c'est ça la difficulté. Je ne vois pas comment, j'ai personnellement vraiment très confiance dans l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, j'espère qu'elle jouera son rôle, mais il faut de toute façon, le projet CIGEO, le centre industriel de stockage géologique est effectivement...
Il s'agit d'enfouir des déchets nucléaires.
Oui, je pense quand même que c'est une solution qui est probablement viable. Il faut en étudier les difficultés. Il faut aussi être très strict sur la sécurité. C'est ce que fait l'ASN et j'espère que ce dossier avancera de façon correcte, franchement.
Mais de toute façon, dans les prochaines années, les prochaines décennies, si on ferme des centrales nucléaires,
il faudra traiter exactement. C'est ça, le bon sens, c'est cela. Donc, il faut, si on ne fait pas CIGEO, il faudra une solution alternative, mais je Pour les déchets à haute activité, je pense quand même qu'il faut une solution d'enfouissement à long terme. On parle aussi de réversibilité, mais pour le moment, tous ces déchets sont en surface, entreposés, et ce n'est pas non plus, je pense, très sain dans le moyen et long terme.